Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant.
Vous ne me prenez pas au sérieux.
Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre.
Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ici, j'écoute des gens me parler de théâtre et de création. Aujourd'hui, j'ai rencontré Vincent Debost. On a parlé de ton alter ego sur scène, Paul Bert, aussi antipathique qu'attachant. On a parlé du métier de comédien. Et on a tenté de donner un bout de réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est en fait, faire du théâtre ? Bonjour Vincent.
Bonjour.
Tu es donc comédien dans le spectacle « Penser qu'on ne pense à rien, c'est déjà penser quelque chose ». Est-ce que tu peux commencer par nous présenter le spectacle, en quelques mots ?
Alors le plus simple pour essayer de donner un aperçu, c'est d'expliquer l'histoire au début. Parce que ce serait trop compliqué de tout expliquer et de tout donner maintenant les clés tout de suite de l'entièreté de cette pièce. L'idée de départ est donc Paul Bert et Gérald, son cousin, et ils écrivent des conversations, voilà, qu'ils vendent. Ils ont un petit peu de mal hein, à les vendre, voilà, Paul Bert étant persuadé que toutes les discussions ont déjà été tenues à peu près depuis le 19e siècle, ils se sont lancés là-dedans. Persuadé que voilà, l'humanité n'a pas assez de mots et a éculé les conversations depuis la nuit des temps. Et donc du coup, il se vante de pouvoir inscrire des moments spéciaux. Donc il vante des soirées spéciales, il vante des conversations d'ascenseur ou des conversations téléphoniques. Et donc arrive dans cette boutique une personne, par hasard, qui se trompe d'ailleurs de boutique, Barbara, qui va rester une petite heure, ainsi que le spectateur, dans cette boutique, voilà, une heure cinq.
Est-ce que c'est facile quand les gens te demandent de quoi ça parle, d'essayer de répondre ?
Oui et non, oui, dans le sens que, bon, voilà, le sujet est simple. Après, pour dire de quoi parle la pièce, c'est une pièce à tiroir, en fait, il y a plusieurs univers dedans. Je pense que le spectateur en lui-même, s'il venait plusieurs soirs, il aurait une manière de résumer la pièce un peu autrement, vu que les thématiques qui sont abordées, qui peuvent être tour à tour l'ennui, la mort, l'inutilité, la vacuité, tant de choses, l'amitié aussi éventuellement, pourquoi pas l'amour, sont des thèmes qui sont légèrement abordés tous, ayant leur place. Le langage aussi, la thématique du langage, bien sûr, tout ça dans un esprit assez loufoque, un peu farfelu, avec des jeux de mots. Tout ça fait que chaque spectateur peut retirer de cette pièce ce qu'il entend. Et du coup, ça appartient vraiment au spectateur, ça appartient même, je dirais, au spectacle, en fonction de comment nous, on se sent, comment le dialogue avec cette quatrième personne qu'est le public arrive à colorer un tout petit peu la représentation et à définir presque des thématiques. J'ai l'impression que ce spectacle-là, suivant les soirs, il est plus léger ou plus drôle ou plus noir. Tout dépend en fait de l'œil du spectateur et de ce moment un petit peu indéfinissable et éphémère qui est la rencontre d'un public et de quatre acteurs.
D'accord. J'aimerais revenir sur ton parcours. Est-ce que tu peux me parler de ce qui t'a amené à être ici aujourd'hui, parce que tu as été comédien pour le théâtre, mais aussi pour le cinéma, la télévision.
Mon parcours est assez classique, on peut dire. C'est-à-dire que très tôt, je me suis tourné vers le théâtre. Donc, en ça, ça n'a pas été vraiment très classique, mais j'ai quand même passé un bac théâtre. Donc, peu de personnes osent le faire dès cette période-là. Il se trouve que j'ai les parents qui m'ont soutenu, donc voilà. Je les ai un petit peu menacés, hein, en leur disant si vous voulez que j'ai un bac, ça sera celui-là et pas un autre. Donc ils m'ont suivi, en tout cas ils m'ont donné cette confiance-là. Et puis après j'ai fait un conservatoire municipal pendant 3 ans. Après je suis rentré au conservatoire national pendant 3 ans. Et à la suite de ça, j'ai rencontré pas mal de metteurs en scène dans cette structure qu'on appelle le JTN, mais aussi au sein de mes 3 années au conservatoire où j'ai quasiment travaillé professionnellement avec tous les professeurs que j'ai rencontrés au conservatoire. Et donc voilà, donc j'ai après lié des amitiés avec d'autres camarades de promo, notamment avec la compagnie du théâtre éruptionnel, avec Edith de Clermont-Tonnerre qui écrit des textes, qui est auteur, metteur en scène, et Lisa Pajon, mais aussi une autre compagnie que j'ai créée avec d'autres du conservatoire, Lucie Birovitch, la compagnie Trois Sentiers qui est basée en Normandie. Voilà, donc après, ça a été une succession de rencontres, soit professionnelles, soit et amicales et professionnelles, qui ont fait que mon parcours oscille entre des textes contemporains comme aussi loufoques que pensés. Par exemple, Pierre, qui a écrit La Piège, je l'ai rencontré au conservatoire du 10e, avant de rentrer au Conservatoire National. Anne, qui joue dans La Piège, je l'ai rencontrée alors que j'étais moi-même au conservatoire et qu'elle était à l'ENSAT. Donc voilà, c'est un parcours. On se connaît depuis plus de 20 ans maintenant avec Pierre, vu qu'on s'est rencontrés en 94. Donc ça commence à dater. Et voilà, après, à côté de ça, ça a été des castings comme tout un chacun pour le cinéma ou pour la télévision avec quelques séries, notamment Les Bougons, où j'ai eu la chance de jouer avec Monsieur Olivier Broche, qui est dans Penser, qu'on ne pense à rien, c'est déjà penser quelque chose. Voilà, il se trouve que Anne avait travaillé aussi avec lui, donc tout ça, en fait, on gravite tous les uns autour des autres. Professionnellement, on s'est retrouvés sur différents projets qui nous ont liés et qui ont fait que, voilà, c'est une histoire artistique, mais aussi amicale, vu que Pierre et Anne se connaissaient depuis la mise en scène que j'avais faite de Naïve Zirondelle au Rond-Point, où Pierre était mon assistant et Anne était comédienne et moi aussi. D'accord. Voilà, alors après, définir tout un parcours, c'est compliqué, mais voilà, c'est jalonné de pièces contemporaines, mais aussi, l'année dernière, je jouais dans un avare, mise en scène par Martinelli, qui se joue au Déjazet. Parallèlement à ça, je jouais un jeune public qui s'appelait Occupé, tiré de Bouboulé Quatre Yeux. Donc c'était un jeune public que je jouais en même temps que l'avare, dans une mise en scène de Anne Contensou pour la compagnie Bouche Bée. Voilà, et puis des pièces que j'écris moi aussi, des aventures que je mène avec Jimo, qui est une jeune compagnie qui produit ce spectacle avec le Théâtre de Belleville.
Juste pour revenir par rapport à ta formation de comédien au conservatoire, est-ce que tu as l'impression que ça t'a un peu formaté?
Formaté dans le sens négatif du terme ou
pas, comment est-ce que t'as...
Je pense pas, non, je pense que ça m'a ouvert, vraiment. D'accord. Je pense que les professeurs qui m'ont le plus marqué, qui ont été Mario Gonzalez pour Le Masque, Jacques Lassalle pour Le Cours d'interprétation, m'ont quand même assez ouvert les yeux sur une certaine curiosité du métier qui fait que... qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter, c'est-à-dire que je les ai trouvés en mouvement. C'est des hommes qui avaient plus de 60 ans quand je les ai rencontrés, plus de 50, plus 60, et ils étaient quand même beaucoup moins arrêtés dans leur idée du théâtre que moi, qui en avais 20. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à se servir de notre jeunesse, de qui on était, de nos goûts, pour les remettre en question. Et à l'intérieur de ça, moi, ça m'a fait grandir parce que je me suis dit qu'un type comme Lassalle, qui a été directeur du TNS, qui a été directeur de la Comédie Française, administrateur de la Comédie Française, il avait une facilité à être étonné d'une scène qu'un élève pouvait passer devant lui, d'un Marivaux ou d'un Claudel, et passer une heure, deux heures, trois heures à parler sur... qu'est-ce que c'est que de s'emparer de ces mots-là? Qu'est-ce que c'est que, pour moi, de monter sur scène avec, en ayant choisi ce personnage-là, puis en entrant par la cour, par le jardin? Alors que pour moi, avant, être en scène, c'était s'identifier un personnage et le jouer. Et là, tout d'un coup, grâce à eux, je me suis rendu compte que la rencontre pouvait être beaucoup plus riche et que jouer un personnage, c'était pas juste en avoir une idée et se conformer à l'idée du plus grand nombre, mais au contraire, d'essayer de trouver un endroit un peu utopique, qui est un endroit de rencontre entre ce qu'on peut penser du personnage, ce qu'on peut rêver de lui et ce qu'on est nous-mêmes en train de le jouer. Ce qui fait que c'est jamais... voilà, c'est une idée jamais figée, alors que pour moi, avant de les rencontrer, avant de rentrer au conservatoire, j'avais cette impression qu'à partir du moment où on avait trouvé le personnage, où on était bien dans ce rôle-là, c'était terminé. Il n'y avait pas d'évolution, il fallait être bien, et toujours aussi bien, aussi efficace, aussi concentré pour être efficace. Et ces gens-là qui au conservatoire, mais aussi mes partenaires de promo, m'ont en tout cas laissé entrevoir qu'il y avait un autre chemin, qui était beaucoup plus riche, beaucoup plus sinueux, beaucoup plus perturbant même, mais qui pour moi m'a marqué à jamais, et qui fait que voilà, un Marivaux joué par deux personnes de 20 ans ou par deux personnes de 40 ans aura toujours des aspects différents à prouver.
J'ai vu récemment la web-série Il revient quand Bertrand, qui est une série d'Arte Créative qui a été diffusée uniquement sur le web, dans un format court qui est tourné dans quasiment un seul lieu. C'était comment de bosser sur ce genre de projet ?
Bah, c'est une économie de moyens hein, pour eux, typiquement parlant. Après, ce qui était super pour nous avec l'équipe d'acteurs, enfin surtout avec Bertrand parce qu'on avait beaucoup de scènes en duo, mais aussi avec Louise ou avec Zoé, qui jouait les personnages féminins avec qui j'ai pu jouer, il y avait quelque chose qui tout de suite nous a plu, c'est les dialogues. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie force à l'intérieur des situations proposées et une vraie envie de dépeindre des personnages avec des petites obsessions ou des petits travers qui étaient quand même assez réjouissants à jouer. Donc après, c'est vraiment un format auquel j'ai pas vraiment l'habitude. Enfin, bien sûr que j'ai fait des films ou des téléfilms ou ne serait-ce que Les Bougons, on a fait 10 fois 52 minutes avec Olivier Broche, il y a pas mal de temps. Mais il y a quelque chose qui est toujours fascinant pour moi face à la caméra, c'est que une fois que la caméra est lancée, on a l'impression on va graver à jamais cette scène-là. Et elle sera, quelquefois, elle sera gardée, alors qu'on n'était pas forcément le mieux. Mais pour des questions techniques, on gardera celle donc, qui fonctionnera le mieux à l'image, qui ne fonctionne pas forcément le mieux par rapport au, jeu. Et il y a quelque chose qui est un petit peu qui fait que nous, acteurs de théâtre, on est dépossédés. Je ne sais pas du tout ce que je rends quand je joue une pièce de théâtre. Je ne sais pas du tout ce que ça fait de me voir, et tant mieux, j'ose le dire. Mais j'aurais tendance à dire que quand je suis, je mène un tout petit peu ma barque comme je l'entends et bien, pas bien, comme je le peux en tout cas, avec envie. Alors qu'au cinéma, j'ai l'impression que je vais faire plusieurs prises et que à la fin, je déciderai jamais. Donc il y a toujours cette idée-là que même cette idée d'humour, parce qu'on est dans deux registres de l'humour, que ce soit dans Pensée ou que ce soit dans Bertrand, il y a forcément des blagues qu'on tente de faire. Guillaume, le réalisateur, nous laissait de temps en temps, ou les fins de scène, ou quelquefois reprendre une scène avec peut-être une invention en plus. On est toujours frustré de ça, parce qu'on ne sait jamais si ça va être gardé ou pas. Et au final, quand c'est gardé, la plupart du temps, on ne se souvient même plus qu'on a improvisé telle ou telle chose, quoi. Donc, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement sur la durée. On a tourné quelque chose et puis après, 6 mois après, on se rend compte de ce que ça a été et on a laissé ça à d'autres personnes pour le gérer, que ce soit au niveau de notre présentation, parce que le cadre influe énormément, ou que ce soit au niveau de l'interprétation, de la justesse ou des choses comme ça. Il ne faut surtout pas s'en préoccuper.
J'aimerais revenir sur la naissance du projet de Pensée. Donc tu m'as dit que tu avais rencontré Pierre au conservatoire il y a 24 ans, du coup, si c'était en 94. Vous avez beaucoup travaillé ensemble ensuite.
Avec Pierre, on s'est retrouvés sur plusieurs spectacles, oui, mais ça faisait pas mal de temps. On s'est retrouvés sur un spectacle quand j'étais en 2000, qui s'appelait Montserrat, qui a eu une petite vie avec pas mal de gens du conservatoire du 10e, quand j'y étais. Et ensuite, on s'est retrouvé quand moi, je lui ai demandé de m'assister sur Naïve Hirondelle. On s'est retrouvé dans des courts-métrages aussi que Nadia, sa femme en l'occurrence, avait réalisé, dans lequel il jouait et je jouais. Et puis c'est tout professionnellement, mais voilà, on s'était pas perdu parce qu'on est potes. Et il se trouve qu'à la base, Penser qu'on ne pense à rien, c'est une autre pièce, un autre titre. C'est-à-dire les premières 20 premières minutes s'appellent « Les hommes préhistoriques sont des cons ». C'était une commande d'écriture, enfin un concours d'écriture lancé par Jean-Michel Ribes et qui s'appelait un festival qui s'appelait « La baignoire et les deux chaises ». Et Pierre avait répondu en écrivant les 20 premières minutes de ce qui est maintenant pensé. Il avait quelques règles qui fait que dans le spectacle, il y a donc un mugissement de vache comme Ribes l'avait proposé, une réplique « Ce yaourt est périmé » qui s'immisce à l'intérieur du brouhaha, la contrainte d'écriture au départ faisait qu'il y avait normalement au minimum une chaise sur le plateau, deux chaises, pardon, et une baignoire. Alors nous, la baignoire, on la figure dans l'esprit des personnages, mais elle n'est pas sur scène. Il avait, donc 15 pièces se sont jouées avec ces mêmes contraintes d'écriture, c'est-à-dire Michis Blanc-Levache, deux acteurs, une actrice, et voilà ce qu'on vient de dire. Et c'est joué aussi celle-là, et moi, tout de suite, quand je l'ai vu comme d'autres personnes, on a tout de suite dit à Pierre, mais il faut absolument que tu étires la situation de ces deux personnages qui inventent des conversations, c'est juste folle, quoi, il faut continuer. Et donc, du coup, il a pensé à plusieurs suites. Et en fait, celle que nous jouons maintenant, elle est assez neuve quand même. C'est-à-dire que ce spectacle-là a dû se jouer quelque chose en 2004-2005, grand maximum, je crois. Donc, ça fait quand même 13 ans maintenant, depuis. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs versions, puis ça a été abandonné, puis on a repris. On avait fait une lecture au rond-point qui était dans un autre esprit avec une autre équipe. Et puis finalement, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure avec la présentation d'Olivier, puis ce groupe avec Anne, Olivier et moi, et puis le fait aussi qu'on était disponible en même temps pour jouer au Théâtre de Belleville, même si on avait lancé un tout petit peu, notamment aux mises en capsule il y a 2 ans, l'idée de pouvoir monter la version longue. Voilà comment ça s'est présenté. Avant ça, Pierre avait écrit quelques scénarios, et puis également une autre pièce qui s'appelle « Ils ont dû nous oublier ». Voilà. Je crois que c'est sa deuxième pièce.
Quand vous avez fait la mise en capsule, il y avait déjà l'idée donc de l'allonger, en fait, le spectacle.
Alors oui, il y avait déjà une première version qui a changé entre-temps. Mais la version existait déjà dans une version d'une heure. Mais les mises en capsule, c'est un principe de 30 minutes maximum. Donc il avait coupé à l'intérieur. Il se trouve que dans la version 20 minutes ou dans la version 1 heure, c'est la même fin. Qui n'en est pas une, mais alors ça, il faut aller voir. et entre-temps, voilà, il y a tout un travail d'écriture qui fait qu'il y a des thématiques qui ont été abordées entre-temps, entre les 30 minutes et l'heure, qui ne sont pas abordées de fait.
Tu as parlé de...
Dans la version courte, ouais.
De versions alternatives, de textes, d'autres textes que Pierre a écrits.
Oui.
Qu'est-ce qui changeait par rapport à cette version-là?
Tout. La première version, en fait, la toute première, si je me souviens bien, parce qu'il y en a une plusieurs... donc avant que Gérald se mette à tourner les pouces dans la version longue, la première version s'arrêtait. Et donc en fait, les deux, la situation était un peu plus dramatique. Les deux devaient tester une soirée. Ils devaient vendre une soirée. Et en fait, Paul Bert était sur la fin de l'écriture. Et donc du coup, Barbara, Paul Bert et Gérald se mettaient à tester la soirée vendue. Et donc la demi-heure après était une sorte de grands festivals où tout d'un coup, 3 acteurs, certains en découvrant le texte, d'autres en train de le jouer parce qu'ils le connaissent et tout ça, se mettent à jouer 90 personnages en l'espace d'une demi-heure avec, voilà, donc avec les clap-clap, avec les paroles qui se font en même temps, avec, voilà. L'idée, c'était d'un challenge et donc cette fameuse suite était l'évolution d'une soirée qui devenait complètement loufoque, à laquelle Barbara se prêtait. Avec quand même cette idée que finalement, à un moment donné, il y avait quelque chose qui ne tenait plus dans la boucle. C'est-à-dire que pour que ça soit plus intéressant, il fallait que Barbara sache un bout du texte. Donc le personnage de Barbara était complètement différent en fait. Le personnage de Barbara qui arrivait faisait plus partie du duo. Et c'était presque un personnage qui se jouait à lui-même pour ensuite jouer. Voilà, c'était vraiment une autre version de la pièce.
Et tu te souviens de la première fois que tu as lu le texte définitif?
J'ai tout de suite flashé sur ce qui était pour nous nouveau, à savoir la thématique abordée par Barbara sur le fait qu'elle n'allait pas pouvoir rester dans la soirée parce qu'on lui avait appris une mauvaise nouvelle, on va dire. Cette version-là n'existe que vraiment dans la dernière mouture. Même si depuis qu'on joue à Belleville, on a rajouté une scène. Donc comme quoi il y a des choses encore qui s'écrivent et que cette semaine, on va encore répéter une autre scène. On essaie d'étoffer un petit peu, on se fait plaisir. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas une scène écrite, mais voilà, une scène chorégraphiée. Donc moi, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est l'arrivée de cette thématique un petit peu... Concrètement morbide, tout simplement, parce qu'elle annonce qu'elle va mourir bientôt. Et le rapport que ça tend à cette annonce à l'intérieur de ce trio. Mmh. Et presque le bouleversement, en fait, sur l'issue finale, à partir du moment où ce personnage, quand on sait que ce personnage-là doit bientôt mourir, je pense que le regard porté sur l'inutilité des thématiques abordées de ces trois personnages devient un tout petit peu plus déconcertant.
Est-ce que tu peux nous parler de ton personnage ?
Paul Bert ? Oui, je peux vous en dire que du bien, parce que je l'aime beaucoup. Même si c'est un affreux personnage, et c'est toujours très agréable de jouer des personnages un tout petit peu... vaniteux comme ça, c'est quelqu'un qui se porte une très grande et forte estime et qui malgré tout reste attachant, en fait, et c'est ça qui me plaît. Bah, en fait, Paul Bert, c'est un peu l'image de Pierre, en fait. Il y a des phrases qui m'y font penser. C'est l'auteur de la pièce au même titre que c'est l'auteur des discussions qu'il s'invente. Je m'amuse d'ailleurs de temps en temps à reproduire quelques caractéristiques scéniques de Pierre au plateau, parce que c'est aussi un acteur. C'est l'auteur, le metteur en scène, mais c'est aussi un acteur. Et donc, de temps en temps, je m'amuse à le parodier un tout petit peu en étant très sérieux par rapport à ce personnage-là. Il est un peu... il est terriblement attachant parce que c'est vraiment quelqu'un qui est ultra susceptible. Là-dessus, il me correspond un petit peu, et qui peut partir dans les tours très rapidement, et qui, malgré tout, reste, malgré ses coups de sang, attachant. Et c'est ça qui me rend, profondément touchant, oui. De jouer quelqu'un qui, tout d'un coup, non seulement ne se rend pas compte de cet égo, qui le tient debout, et en même temps qui peut être pétri de doutes existentiels à travers cette fausse autorité qu'il essaye d'asséner comme une vérité.
Comment tu as choisi d'incarner ce personnage ?
Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, je ne sais pas trop. Je laisse le metteur en scène ou mes partenaires... répondre à ça. J'essaye d'appliquer un petit peu la même chose à chaque fois, c'est-à-dire de ne pas fermer les opportunités de jeu. Ce qui est très compliqué quand on joue un spectacle sur une longue série comme celle-ci. Par exemple, actuellement, je vais reprendre un autre spectacle, un Marivaux, où j'aurai 15 dates en 2 mois. Là, on a 62 dates en 2 mois et demi. Donc la différence, le travail n'est pas du tout le même. Le rapport au personnage n'est pas du tout le même. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du refaire de fait, hein, tous les jours. Et du coup, je m'interdis à recycler les choses qui marchent le mieux. C'est-à-dire, dès que j'entends, que telle ou telle réplique fait mouche auprès des spectateurs, que j'entends un rire qui se déploie sur tel ou tel aspect, je le tente pas de fait, mais je m'interdis de reproduire absolument ce que j'ai fait la veille, pour pas m'enfermer là-dedans en me disant que... parce qu'en fait, après, il reste que le souvenir et de ce qu'on a fait, du rire, plus que de ce qu'on a fait, finalement, quelquefois. Et donc, du coup, on procède par touche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment au contact d'Olivier et d'Anne, et de rebondir avec eux, de penser avec eux la pièce, comme on parle de ça. Mais donc c'est cette idée que même si on a un rapport à la métrique, parce que c'est un spectacle drôle, décalé, donc il y a quand même pas mal de notions de rythme qui sont à l'intérieur même des répliques. Au-delà de ça, moi, mon esprit, j'aborde ça comme une page la plus neuve possible. Même si, bien sûr, je sais exactement ce qui va se passer, on a quand même dans la mise en scène un espace de recréation qui nous, voire de récréation, j'en sais rien comment il faudra le dire, mais de recréation des mouvements, par exemple. On peut interroger nos déplacements tout le temps, on n'est pas fixe. Alors bien sûr, il y a des endroits où on est habitué, donc on s'y retrouve. Il y a quand même pas mal de petites choses où on peut se permettre de se déplacer autrement en fonction de comment on sent, comment on est avec les autres. Et c'est pas dans tous les spectacles qu'on a cette liberté-là. Et ça, c'est assez agréable.
C'est une pièce qui traverse plein de questionnements assez philosophiques, même si sur un ton très naïf. Donc il y avait ce décalage dont tu parlais, le côté léger, mais aussi un peu plus sombre. Toutes ces réflexions autour du temps qui passe, de la mort, du langage. Est-ce que ça a amené chez toi des réflexions, ou est-ce que ça continue de le faire à force d'être confronté tous les jours comme ça à ce texte ?
Chez moi, dans ma vie ?
Oui. Non, pas dans ta vie.
je pense que c'est... En fait, ce qui est très agréable, c'est d'être confronté après la présentation à l'étonnement des gens sur cette thématique-là. C'est vrai que nous, maintenant, on est confronté à ça, mais je pense que c'est surtout l'effet final qui bouleverse un tout petit peu la lecture de l'œuvre. Donc, ce rapport au temps qu'inclut la scène finale, c'est une des thématiques qui, moi, en tant que jeune papa, me passionne énormément. Après, par rapport à... Pour ma part, après, par rapport à l'interprétation et par rapport au travail en lui-même, on est assez dégagé de ça.
Oui, parce qu'à force de le répéter, j'imagine
c'est ça, complètement. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment, l'idée, c'est de recréer l'espace où ça se dit, où ça se convoque, où ça arrive, où ça affleure. Mais les gens peuvent, en sortant du spectacle, se remettre en question. Nous, par rapport à ça, on a une petite longueur d'avance, donc forcément on a derrière nous, un tout petit peu comme le dit Paul Bert, essoré toutes les discussions possibles et inimaginables autour des thématiques. Du coup on est forcément moins surprise, et pourtant il faut créer les conditions de la surprise pour que le spectateur soit saisi dans un étonnement le soir de la présentation.
Ça fait déjà presque 2 mois que vous jouez la pièce, quasiment presque tous les jours. Qu'est-ce qui a évolué depuis 2 mois?
Le rythme. Le rythme et la précision, surtout, parce qu'on est parti, on n'avait jamais joué ce spectacle-là dans son entièreté. Donc pour nous, le 14 décembre, c'était vraiment une première. Le spectacle, j'estime qu'il s'est trouvé, il a commencé vraiment à se trouver, pour nous, acteurs, à partir de début janvier. Même s'il y avait des choses qui étaient là, où on était contents, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, où on a resserré les choses, les premiers filages duraient 1h10, ensuite on est arrivé à, petit à petit, en l'espace de 15 jours, de 1h10, on est passé à 1h, sur un spectacle aussi court, c'est beaucoup au niveau du rythme, c'est pour ça que je disais ça. D'où notre envie et la demande auprès de Pierre de rajouter des scènes, ce qui fait que maintenant on est à nouveau à 1h05, parce qu'on a rajouté une scène, et qu'on va rajouter encore une autre scène pour être aux alentours des 1h10. Non pas que ce soit une chose nécessaire au projet, mais voilà, c'était une envie aussi de se dire, on a du temps, on le joue ici, pourquoi pas expérimenter d'autres choses, et lui donner encore la prochaine scène qu'on va incorporer, donnera un angle encore plus... plus décalé, je pense, sur tel ou tel passage.
Donc vous avez demandé à Pierre Bénézit, qui est donc l'auteur et le metteur en scène de la pièce, de rajouter une scène, enfin d'en écrire
Il a écrit une nouvelle, et sur sa proposition, et avec Olivier et Anne, on est parti sur l'idée d'une autre scène, mais non verbale. Je garde volontairement le mystère.
D'accord. Donc là, tu disais chorégraphier.
Voilà, moi, bon, je me suis vendu, alors déjà. J'ai vendu la mèche, malheureusement.
D'accord.
Mais voilà, c'est plutôt quelque chose de cet ordre. La deuxième scène sera co-écrite avec une chorégraphe, on va dire.
Ah, chouette. Et du coup, en parlant de Pierre, donc, il est assez peu présent, je crois, en ce moment, surtout parce qu'il joue dans Edmond, de Michalik. Est-ce que tu prends parfois un peu le rôle de metteur en scène? Ça se passe comment au jour le jour?
Non, on est tous les trois égaux là-dedans. On se donne tous des notes, Olivier à Anne à moi-même, et moi à Anne, on essaye le plus possible. Après, étant coproducteur du spectacle, il y a des choses que je prends en charge, que les autres ne prennent pas en charge. Que ce soit par rapport à la billetterie, que ce soit par rapport à l'installation du décor, la désinstallation du décor, tout ça. Mais sinon, après, au cœur même du jeu, personne n'a le statut de metteur en scène à la place de Pierre.
D'accord. Tu joues la pièce donc avec Olivier Broche et Anne Giroir, qui sont tes co-comédiens sur scène. Mm-hmm. Justement, par rapport au fait que vous vous voyez quasiment tous les jours, est-ce que ça renforce votre complicité sur scène?
Le fait d'avoir effectivement trouvé un peu plus les marques du spectacle, c'est-à-dire depuis début janvier, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui maintenant s'inscrit encore de plus en plus dans la complicité de jeu, oui. C'est-à-dire qu'on commence à... Enfin, depuis un peu plus d'un mois maintenant, on a trouvé chacun nos marques à l'intérieur de nos parcours respectifs qui nous permet de nous libérer de... pas du carcan, mais en tout cas de nous libérer d'une certaine contrainte à assumer dans un parcours personnel, ce qui nous permet d'être vraiment plus à l'écoute de ce que va rendre l'autre. C'est une oscillation de toute façon chaque soir entre ce qu'on doit faire, ce qu'on doit rendre rythmiquement et tout ça, et le fait de rebondir sur telle ou telle intonation de tel partenaire ou tel mouvement ou tel regard. C'est des choses qui sont assez agréables quand ça se produit, quand tout d'un coup on a des partenaires de jeu, ce qui est le cas, qui tous les soirs ne font pas rigoureusement la même chose, ce qui nous permet de nous étonner un tout petit peu, quoi.
Donc vous êtes encore surpris après deux mois de...
J'espère qu'on arrivera toujours à surprendre. Le texte le permet en tout cas. Ça nous offre, et la mise en scène, nous offre des espaces où, voilà, quelquefois, c'est autant Paul Bert et Barbara qui se regardent que Vincent et Anne, avec les mots de Pierre.
Et vous avez quel type de retour sur ce spectacle ?
Bon, on a un petit peu de tout... Concrètement parlant, j'ai forcément des retours des gens que je connais, donc j'ai toujours du mal à me fier aux retours de gens qui osent me parler, parce qu'en général, on n'ose pas me dire qu'on n'aime pas. Ça arrive, hein, pour certains, et du coup, c'est difficile d'entendre. Donc finalement, les seuls vrais retours que j'arrive à percevoir, c'est pendant la présentation.
D'accord.
C'est l'écoute, en fait. Mmh. Il se trouve qu'il y a quand même quelques passages où... je suis, on va dire, face publique, où je suis à l'écoute de mes partenaires. Et à ce moment-là, j'aime bien zioter un tout petit peu, voir l'attention. Alors, il y a l'écoute d'abord, parce qu'on entend si les gens sont avec nous. Parce qu'on sait que ce théâtre-là, c'est un théâtre, on va dire, proche de l'absurde. C'est une comédie loufoque, douce amère, si on veut, mais... Il y a un esprit qui règne à l'intérieur de ça, qui fait qu'on peut laisser certains spectateurs au bord du chemin sur telle ou telle thématique. Que ce soit par rapport au temps, que ce soit par rapport à l'ennui, que ce soit par rapport au langage. Et donc il y a une sorte de va-et-vient permanent. Alors quelquefois il y a des représentations extraordinaires où on a l'impression que toute la salle suit tout le temps. Et puis il y a quelquefois des salles où tout d'un coup le public se disloque un tout petit peu et puis certains sont là et d'autres nous sont... un peu plus lointain, me semble plus lointain. Finalement, c'est un peu plus par rapport à ça que je me fie, même si de temps en temps, quand j'ai l'opportunité de regarder un tout petit peu plus les spectateurs et que je vois une jeune dame appuyée sur la tête de son mari, je me dis qu'il faut absolument faire quelque chose et en même temps, j'y peux rien, en fait. Elle a le droit de dormir aussi au théâtre.
Donc tu es aussi prof au studio de formation théâtrale à Vitry, donc tu es donc régulièrement confronté à des futurs comédiens. Et ce podcast, c'est aussi un média qui a pour vocation de parler aux jeunes compagnies. Qu'est-ce que toi, tu aurais à dire à des jeunes compagnies qui se lancent ?
Des jeunes compagnies ou jeunes comédiens ? Jeunes compagnies ?
Comme tu veux. Toi, tu es plutôt... en scène plutôt à des comédiens, donc peut-être à des comédiens.
Oui, parce que le compagnie, j'aurais tendance à dire que voilà, mais il faut proposer, mais c'est un petit peu la même chose pour les comédiens, mais c'est-à-dire que il y a un chemin, personne ne nous attend, ça c'est sûr, et donc il y a à prouver un tout petit peu, et pour pas avoir l'impression de vivre perpétuellement un casting, il faut s'entourer et au départ, je pense, pour les jeunes comédiens, comme pour les jeunes compagnies, de complices. Et dans le travail, et dans le compagnonnage. C'est-à-dire que j'ai jamais pu faire ce métier sans m'intéresser aux autres. Voir des spectacles, beaucoup de spectacles pour me construire moi et éventuellement même travailler avec des gens qui sont pas forcément... on a un petit peu peur de ça au départ, mais pas forcément du même, la même esthétique de jeu que moi ou le même environnement de moi. Essayer de sortir en fait de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on pense savoir faire. C'est un petit peu, pour vous donner une image un peu plus concrète, ce que me disait ma prof de chant au conservatoire, c'est-à-dire que pour trouver ses aigus, il faut travailler ses graves. Ben, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que il ne faut pas hésiter à se planter. Il ne faut pas hésiter à oser être mauvais. Il ne faut pas hésiter à faire pour faire sans se poser de questions. Parce qu'on a besoin de se rassurer dans un premier temps, et c'est complètement logique. Mais je pense que la petite prise de risque qu'occasionne le passage d'un homme ou d'une femme sur scène, elle doit être célébrée le plus possible et préservée le plus possible au plateau. Et très vite, par souci de plaire au metteur en scène, de plaire au professeur, de plaire à des camarades, on reproduit ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est le danger qu'il y a à l'intérieur d'une formation où tout d'un coup, tout le monde nous connaît, on nous aime pour ce que l'on est, et du coup, on ne surprend plus personne à part le petit groupe qui est habitué à telle ou telle inflexion de voix ou à telle ou telle chose. Voilà, je pense qu'il y a... Il y a à être curieux de ce qu'on déteste. Parce que je pense qu'on se construit aussi dans les spectacles qu'on n'aime pas. Les horizons qu'on n'aime pas. Et comprendre pourquoi on ne les aime pas, c'est aussi un tout petit peu plus accepter qui l'on est et ce que l'on veut proposer. C'est très très dur. Donc, ça semble, comme ça, un peu masochiste, tel que je suis en train de le dire, mais c'est très très dur d'apprendre de ça. Moi, je me suis toujours... enfin, c'est même pas une règle d'or en fait, mais c'est juste en tant que spectateur, quand je m'ennuie, profondément quand je m'ennuie au théâtre, il y a quelque chose qui dépasse complètement l'œuvre en elle-même, je la regarde plus pour ce qu'elle est, il y a quelque chose qui m'a profondément désintéressé de ce qui se passait au plateau, donc je regarde comment ça se fait, que ce soit au niveau des lumières, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau de la disposition des corps, et j'essaye de détourner mon intérêt du spectateur lambda qui voit ça et qui accepte tout. Évidemment, quand j'aime beaucoup un spectacle, j'ai peut-être moins de choses à dire sur ou sur les lumières, ou sur les décors, ou sur les choses comme ça, les choses extérieures, parce que je suis plongé à l'intérieur d'un processus et donc j'oublie que je fais partie de ce métier et alors j'adore ça. Ça m'arrive souvent, par exemple, avec des gens comme Castellucci, comme des gens comme Ivo Vanov ou Ostermayer, même des jeunes hein, comme Julien Gosselin par exemple. Voilà, j'oublie que je fais partie de ce métier-là et je ne regarde pas du tout comme quelqu'un qui le fait aussi, je le regarde comme un spectateur qui prend tout. Alors que pour d'autres metteurs en scène, ou pour moi, tout est dit dès les 10 premières minutes où rien ne va ne susciter mon intérêt, à ce moment-là, je regarde le... Comment, quel est le positionnement, où a été le travail, comment j'aurais pu moi-même y trouver un intérêt, comment j'aurais pu révéler autrement la chose, sans forcément tout de suite me dire que c'est pas comme ça qu'il fallait le monter ou quoi que ce soit. J'essaie de comprendre de l'intérieur en fait. J'essaie de comprendre par l'intérieur du travail ou ce que je pense entrevoir du travail et par la forme, ce qui moi, dans le fond, m'a manqué. Voilà, je dirais que à part ça, qui est une sorte de disposition générale, je pense qu'il faut pas être avare d'exercice et de temps au plateau. Je pense qu'il faut bouffer du plateau. Et quitte à faire des spectacles de rue, quitte à faire il faut du temps avant d'acquérir cette petite chose si nécessaire au théâtre d'acteur, c'est la confiance en soi. Au plateau. Donc je pense qu'il faut... C'est vraiment un art du refaire où on a l'opportunité de... En plus, en France, c'est une chance incommensurable par rapport à des pays dans le monde entier. Hein. Je me place vraiment sur le monde entier. La France, là-dessus, il y a une opportunité On peut faire du théâtre partout, on peut le faire dans la rue, on peut proposer à des établissements de venir faire telle ou telle lecture, on peut apprendre tout, il y a quand même une appétence quand même pour la part artistique, même s'il faut se battre, qui fait que en se débrouillant bien, on peut proposer et faire le plus possible.
D'accord. J'ai une dernière question.
Oui.
Pourquoi ce titre interminable que personne ne retient?
Penser qu'on ne pense à rien, c'est déjà penser quelque chose. Bah, d'ailleurs, entre nous, hein, pour tout vous dire, on appelle penser. On ne parle jamais de penser qu'on ne pense à rien, parce que c'est peu court. Alors ça, il faudrait presque poser la question à Pierre plus qu'à moi. C'est une des phrases de la pièce.
C'est vrai.
Donc c'est une des répliques. Penser qu'on ne pense à rien, c'est déjà penser quelque chose. C'est vrai que cette idée que la question qui taraude un tout petit peu, je ne sais pas si c'est le verbe le plus donné dans la pièce. Ça doit être penser et dire, certainement, qui doit être les verbes les plus usités par Pierre, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à l'intérieur du cerveau de Paul Bert et de Gérald hein, qui remet un tout petit peu notre perspective et notre manière de penser dans un endroit qui est un peu déroutant. Et je pense que leur pensée, ce à quoi ils pensent, fait que tout d'un coup, sur le plateau, on a affaire à trois êtres qui réinvestissent leur rapport à la vie. Ils la pensent autrement. Et concrètement, au plateau, ils sont tous les trois en train de penser sur scène. Ils sont en train de se confronter à des axes, des manières de vivre leur vie, des manières de vivre leur désespoir, des manières de vivre leur fin de vie, de manière complètement différente. Et ces pensées-là, elles sont vraiment pas du tout dans un monde qu'on a l'habitude de côtoyer au jour le jour. Je pense que vivre à côté de quelqu'un comme Paul Bert, ce serait épuisant, exténuant, et que pendant 1h05, 1h10, ça peut nous faire rire ou nous faire penser à autre chose.
Tu peux nous rappeler comment et jusqu'à quand est-ce qu'on peut venir voir penser qu'on ne pense à rien, c'est déjà penser quelque chose?
Alors, à part le 20, mardi 20 février, nous jouons donc tous les jours, du mardi au dimanche, le mardi au samedi à 19h15, le dimanche à 15h, et donc c'est au théâtre de Belleville. L'adresse exacte c'est 94 rue Faubourg du Temple, pardon, je commence mal. L'adresse exacte c'est 94 rue du Faubourg du Temple, mais c'est dans une petite impasse,
passage Pivert.
Voilà, passage Pivert.
C'est et de la rue, c'est au métro Belleville.
Métro Belleville ou Concours.
Au Concours.
Voilà, et on peut acheter des billets sur les réseaux sociaux, par Facebook, par
sur téléphone, Internet,
sur Internet, Gitic. Voilà, c'est ça. Digitique, c'est ça.
Merci beaucoup, Vincent.
Mais de rien, merci à toi, Garance.